Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Habituellement, je commence l'émission, vous le savez, vous êtes habitués maintenant, avec mon petit commentaire éditorial. Ben là, je vais aujourd'hui céder la parole à quelqu'un d'autre. Vous le savez, je fais des balados qui s'intitulent « Devine qui vient souper », qui sont maintenant faits non pas chez moi, mais dans un studio, dans une salle de conférence à Cube. Et on le fait évidemment respectant toutes les mesures sanitaires du gouvernement. Et notre tout nouveau balado qui est disponible à partir d'aujourd'hui. C'est avec l'auteur Kim Thuy et l'animateur-producteur Jean-Philippe Dion. On a parlé toutes sortes de choses. On a parlé de ce que c'était pour Kim Thuy d'avoir un enfant autiste qui communique mieux qu'elle. On a parlé avec Jean-Philippe Dion de la maladie mentale de sa mère, dont il et elle parlent ouvertement. Et aussi, on ne pouvait pas faire cette entrevue sans aborder la question de Marie-Pierre Morin. Voici ce qu'avait à en dire Jean-Philippe Dion.
Marie-Pierre, je la considère comme une amie, puis malgré ce qu'elle a pu faire, ça restera une amie. Là, tu sais, ça, pour moi, ça ne change rien. Puis Marie-Pierre ne m'a jamais rien fait, puis elle n'a jamais été terrible à mon égard, puis je ne l'ai jamais vraiment vue non plus dans des circonstances épouvantables. Tu sais. Mais j'ai trouvé que c'était trop cher payé. Elle a pas été brillante dans des situations. Elle avait des démons à régler, puis je pense qu'elle aurait pas dû poser ces gestes-là.
La punition était trop grave par rapport à la faute.
Aucun bon sens. Mmh. T'sais, Marie-Pierre, c'est une bonne fille, puis Marie-Pierre, c'est une personne qui a des bonnes valeurs, puis qui est capable d'être hyper gentille, qui est extrêmement brillante.
Et on a parlé, bon, de toutes sortes de sujets. Et pendant toute la balado, on essayait de faire en sorte que Kim Thuy fasse une controverse. Elle en est absolument incapable. C'est drôle. Ça donne lieu à plein d'échanges vraiment drôlement intéressants. Alors, vous allez dans la section balado de Cube Radio. Vous allez retrouver ça. Et ben j'ai le goût d'en faire hein, quand même, de ben voyons donc. Je vais vous dire, vous savez quoi? C'est tellement bon, ces balados-là. Ben voyons donc, c'est bon.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Je vous dis souvent depuis plusieurs semaines à quel point mon collègue et ami Joseph Facal est en feu. Ses chroniques sont vraiment là de la nitroglycérine, des bombes d'opinions. Mais je pensais pas à quel point son entrevue qu'il a accordée à un certain Richard Martineau au Franc-Tireur aurait autant d'impact. Bonjour Joseph!
Bonjour Sophie!
Écoute, tu es la coqueluche de l'heure depuis que les Francs-Tireurs, depuis que Télé-Québec a diffusé hier soir à 21h l'entrevue que tu as accordée à Richard. Écoute, sur mes médias sociaux, je ne vois pas assez que ça. Les gens soulignent ton courage, ta franchise. Alors, c'est disponible bien sûr sur le site de Télé-Québec dans la section Francs-Tireurs. Je vais vous en faire écouter un petit extrait de cette entrevue que tu as accordée à Richard hier.
Jamais, jamais. Richard, j'aurais pensé être ici en 2020 avec toi et prononcer ces mots. La liberté individuelle recule et c'est gravissime. Cette espèce d'idéal de vertu auquel on croit tellement qu'on est prêt à couper des têtes, c'est pas nouveau ça dans l'histoire de la pensée, là. Et ça a fini par s'effondrer. Donc je me dis, à un moment donné, le bon sens va reprendre ses droits.
Écoute, tu as fait beaucoup jaser dans les chaumières. T'avais vraiment envie de faire un coup de gueule. Là.
Ben, écoute, oui. En même temps, c'est ce que je pense et c'est ce que j'écris depuis longtemps. C'est juste que Richard m'offrait l'occasion de mettre un petit peu plus de nuances que dans une chronique de 500 mots. Et puis, on se cachera pas non plus que la télévision a aujourd'hui un impact, si tu veux, plus immédiat que si je m'étais mis au travail pour écrire un essai de 250 pages qui m'aurait pris 18 mois, là, tu vois.
Surtout si le premier ministre avait recommandé ton livre dans ses choix de lecture, tu te serais fait tomber sur la tomate, hein?
Non, tu vois, je suis pas totalement dinosaure, là. Je suis quand même tout à fait capable de reconnaître la puissance des médias électroniques. Et puis aussi, je te cacherai pas que pour moi, ça me faisait un petit quelque chose que Richard, après 23 ans à la tête d'une émission, il y a combien d'émissions qui ont duré 23 ans pour l'avant-dernière me dise « Hey, ça te tente-tu? » Fait que c'était vraiment une occasion à ne pas rater. Et ce matin, bon, moi, je suis pas vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des gens qui réussissent à me rejoindre et qui me disent que, au fond, j'ai mis des mots sur un malaise qu'eux-mêmes ressentent depuis longtemps. Et donc, ben, j'ai comme l'impression que si ça a pu aider minimalement, ben, c'est déjà ça.
Voilà. Et je trouve que cette entrevue complète parfaitement le travail de fond que tu fais depuis plusieurs années maintenant au Journal de Montréal, Journal de Québec, dans tes chroniques, qui est cette réflexion sur l'état des choses du Québec et une réflexion qui est pleine d'amour. C'est comme si tu regardais le Québec en disant, en regardant un de tes élèves à l'université, en disant « Mais mon cher élève, ton potentiel est tellement extraordinaire. Tu devrais tellement plus avoir confiance en toi et en tes habiletés et en ton potentiel. » C'est un petit peu ça que tu nous dis aux habitants de ce petit bout de pays depuis des années dans tes chroniques, Joseph.
Ben, d'une certaine façon, oui. J'aime bien le parallèle avec les étudiants. Bien que, si tu veux, dans mon rapport à la société québécoise, il n'y a pas du tout le rapport d'autorité qui a forcément entre le professeur et ses étudiants. Mais c'est cette idée que on pourrait être tellement plus que ce qu'on est. Mm. Et effectivement, ça m'arrive de dire à un étudiant, « Bon, écoute, je t'ai mis B, mais franchement, entre toi et moi, là, on sait que tu as le potentiel pour un A. » Eh bien, le Québec, Sophie, c'est un A en puissance.
C'est ça. Force-toi un peu. On a le goût des fois de regarder le Québec en disant « Force-toi un peu, puis arrête de te tirer dans le pied, puis arrête de t'auto-flageller, puis arrête de te... De... » Bon, c'est des fois, c'est décourageant. Puis comme tu le dis régulièrement, un peuple qui s'est dit non à lui-même deux fois fait preuve quand même d'un extraordinaire manque de confiance en lui, alors qu'il a un potentiel absolument extraordinaire. Bon, alors, écoute, on encourage tout le monde donc à aller écouter cette entrevue marquante quand même, une entrevue coup de poing au franc-tireur. Revenons-en à ta chronique de ce matin. Écoute, moi j'ai écrit une chronique cette semaine qui s'appelait « Les chialeux ». Toi, ta chronique, c'est « Chialage d'enfants gâtés ». Tu trouves que par rapport à Noël, on est un peu des bébés lala finalement, là.
Écoute, Sophie, nous voyons tous arriver à grands pas Noël, certains avec joie, d'autres avec appréhension. Je suis dans le camp de l'appréhension. Mm. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas un Noël ordinaire. Qu'est-ce qu'on entend? On entend « je suis à bout, c'est pas une vie, ma santé mentale, je deviens fou, mes amis. » Et là, beaucoup de ces gens, on le sent là, on le sent. Ils sont tentés de dire « Ah, oh, come on, c'est Noël, on n'a pas vu grand-papa depuis longtemps, là. » Et là, évidemment, j'ai des craintes, parce que même des gens raisonnables, seront tentés de se dire « Ah, ben Noël, c'est pas pareil. Noël, c'est la fête des fêtes. Noël, c'est le Super Bowl des familles. » Tu vois?
Ah, je l'adore. Elle est très bonne. Ah, c'est sûr que je vais te la voler, celle-là. Correct. Le Super Bowl des familles. OK, vas-y, continue.
Et en même temps, tu comprends bien que le pauvre François Legault, là-dedans, ne prend pas une décision sanitaire. Il prend une décision politique.
Absolument.
Le premier
électoralisme,
ministre,
même, je dirais.
Voilà. Le premier ministre sait parfaitement que que s'il disait « il n'y en aura pas de Noël », ben beaucoup de gens vont tricher. D'où cette idée boiteuse, mais en même temps compréhensible, si on se met à sa place, du contre-moral. La vérité, c'est que, Sophie, quand on écoute les gens qui n'ont pas d'intérêt politique, quand on écoute les médecins qui savent de quoi ils parlent, ils nous disent « est-ce que les rassemblements de Noël valent le risque d'être submergés par un tsunami de nouveaux cas en janvier qui vont affecter surtout qui? Grand-papa et grand-maman.
Ben »
Alors,
voilà.
Si on les aime autant qu'on le prétend, peut-être que justement, le vrai amour, c'est de leur dire non. De la même manière que la vraie marque de respect pour un étudiant, c'est de lui dire « je sais que tu peux faire mieux ». Des
voilà,
fois,
mais
le vrai amour, là, c'est la vérité.
C'est ça. Et c'est très intéressant parce que si les gens vont sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est très ironique. C'est que ta chronique, il y a ta chronique, et en dessous, c'est marqué « recommandé pour vous ». Et un des textes recommandés, c'est justement une entrevue avec un médecin des Laurentides, Simon-Pierre Landry, qui dit « je sais que ça va être l'enfer en janvier ». Et oui. Ça rejoint un peu les propos du docteur Don Shepherd que j'ai interviewé lundi et qui, lui, n'arrête pas depuis plusieurs jours dans les médias de dire, ben écoutez, dans 5 ans puis dans 10 ans, là, allez-vous être capable de vous regarder dans le miroir en se rappelant ce que vous avez fait à Noël 2020? Avez-vous fait partie des gens qui ont fait le party comme s'il n'y avait pas de lendemain ou avez-vous fait partie des gens qui ont été raisonnables et qui n'ont rien fait?
Et Sophie, je voudrais pas, disons, m'auto-citer, mais je me permets quand même un petit peu. Là, franchement, là, écoute, la crise des années 30 a duré 10 ans.
Oui.
La Deuxième Guerre mondiale a duré 6 ans. La grippe espagnole a duré 3 ans. Nos ancêtres ont vécu des hivers terribles où, si les Autochtones n'avaient pas été là pour les secourir, ils crevaient tous.
C'est vrai.
Champlain, son premier hiver, là, il y en a 8 qui ont survécu. Et nous, après 9 mois de relatives contraintes, on capote. Hey, il est où l'esprit pionnier, là?
Non, mais oui, puis écoute, là, en plus, hier, le gouvernement, notre docteur Arruda a annoncé qu'on avait le droit d'aller s'enfermer dans une pièce avec une heure pour s'en sortir. Donc, il a décidé de la réouverture des jeux d'évasion. Écoute, c'est rendu qu'on peut même, alors qu'on est un peu prisonnier, on peut même payer à fort prix pour aller s'enfermer dans une pièce pendant une heure. Le gouvernement dit « vous avez le droit de le faire ». Fait que de quoi on se plaint, là? On se plaint la bouche pleine, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Mais ce que je trouve intéressant dans ta réflexion, particulièrement, Joseph, c'est l'idée aussi de solidarité. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait pour soi. Tu sais, je reviens à mon fameux docteur Don Shepherd. Il dit, écoutez, Madame Durocher, Noël, là, c'est ma fête préférée. J'en rêve. J'ai des larmes aux yeux quand je pense à Noël. Mais je le fêterai pas cette année. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que c'est un, il faut avoir le sens du sacrifice. Penser à son voisin. Pas juste penser à son nombril. Et je pense que c'est ça qu'on a vu depuis le début de la pandémie. Ouais. C'est cet égocentrisme exacerbé.
Ben, tu sais, Sophie, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a pas 10 minutes, ma fille, qui est enfermée dans sa chambre en train de préparer ses examens de fin de session, descend en bas se faire un café et elle me dit, j'ai lu ta chronique, elle me dit, c'est pas mal, mais tu sais très bien que ceux qui veulent rien comprendre, c'est pas avec ça que tu vas les convaincre.
Ouais.
Effectivement, il y a du monde qui sont dans le déni total. T'as vu cette gang, je m'excuse, d'épais, au centre d'achat de Rosemère,
ben oui.
Ils sont mis à danser, franchement, là. Hein?
Oui.
C'est sûr qu'il y a une partie de notre population qui vit dans un univers parallèle. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Mais en même temps, écoute, si ceux d'entre nous qui ne cramponnons encore à la raison ne disons pas quelque chose, non, écoute, moi, il me semble que le bon sens même, c'est d'accepter que ce ne sera pas un Noël comme un autre. On se fera un Noël virtuel, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui, puis moi, je trouve ça intéressant que tu fasses un parallèle avec les danseurs de Place Rosemère.
Ouais.
Mais c'est qu'en fait, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein? C'est-à-dire, c'est la partie immergée, mais il y a toute la partie submergée. Et la partie submergée, c'est plein de gens qui ne vont pas se mettre devant les caméras, qui vont pas faire des stunts publicitaires pour montrer à quel point ce sont des covidios, mais qui le font dans le confort de leur salon, qui font des parties, qui sont en train de commander la dinde pour 40 personnes, qui font venir le traiteur, oui. Qui louent. C'est tout ça, là. C'est tout ce qu'on ne voit pas.
L'autre jour, Sophie, je sors promener mon chien et je capte une conversation entre deux dames qui étaient vraiment très, très remontées. Et l'une d'entre elles disait que son voisin conseillait à tous ses copains de stationner les autos un peu plus loin.
Ben
pour
oui.
qu'on ne se rende pas compte du nombre anormalement élevé d'autos devant une adresse. Alors oui, qu'est-ce que tu veux? Il faut vivre avec ce X pourcentage de covidios qui, au fond, neutralise et compromette les efforts d'une vaste majorité raisonnable.
Oui. Écoute, enfin. On parlait tout à l'heure de solidarité. Je veux t'amener sur un tout autre sujet,
ouais.
Joseph. Une chronique que tu as écrite il y a un petit moment, en fait mardi, pas plus tard que mardi, c'est l'affaire Yves Michaud. Je trouve que c'est très important de parler de ça parce que je vais citer Aznavour. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il faut rappeler ce qu'est l'affaire Yves Michaud. D'abord, qui est Yves Michaud et pourquoi tu as écrit cette chronique. Cette semaine.
Bon, ça, ce fut une chronique un peu pénible à écrire, mais bon, allons-y à cœur ouvert. Yves Michaud a aujourd'hui 90 ans. Il fut un ami et journaliste, ami de René Lévesque et journaliste, mm-hmm. ex-député libéral, ex-délégué général du Québec en France. Un homme parfois irritant, mais bon, on est comme on est.
Un érudit, vraiment.
Voilà. Quelqu'un qui aime placer le bon mot, qui bon, enfin, ne laisse personne indifférent. Quoi qu'il en soit, il y aura 20 ans dans quelques jours. C'était à l'époque du gouvernement de Lucien Bouchard. J'étais député et ministre. Nous arrivons au Parlement et là, on nous annonce qu'une motion d'urgence sera déposée pour blâmer Yves Michaud pour les propos supposément inacceptables qu'il aurait tenus la veille à l'endroit des communautés ethniques et de la communauté juive. Alors évidemment, qui dit motion d'urgence dit fébrilité. Nous regardons tous le texte de la motion, mais nous ne demandons pas à voir quels sont les propos suffisamment controversés. On fait confiance, comme je l'explique, on est à quelques minutes de la période des questions, c'est un sauna politique, on est tous fébriles, on est tous tendus, la motion est présentée conjointement par le Parti libéral et le Parti québécois, et on la vote, comme ça. Et très rapidement, on s'aperçoit que Michaud n'a rien dit d'absolu. Mmh. Inqualifiable, et donc évidemment un peu mal à l'aise au fil des années subséquentes. Nous sommes un certain nombre à nous excuser à titre individuel. Mm. Je comprends que cette accumulation d'excuses individuelles n'aura jamais la portée
voilà.
symbolique et institutionnelle d'une motion votée par le Parlement de tous les élus du peuple du Québec. Et à partir du moment où clairement, il s'avère que nous avons erré. Il me semble qu'il faut, d'une manière assez solennelle, il faut réparer cette injustice que nous avons tous, dans un moment d'égarement, commis. Et dans quelques jours, ce sera le 14 décembre 2020, dans quelques jours, ce sera le 20e, j'ose pas dire, anniversaire de ce triste moment. Et maintenant que la poussière est retombée, maintenant que le personnel politique a été renouvelé, maintenant qu'il ne reste plus qu'un député de cette époque, nul autre que le premier ministre, il me semble que le moment est venu de, avec dignité et humilité, dire qu'on s'est trompé et de voter une motion pour réparer cet affront commis à l'endroit d'un homme qui a aujourd'hui 90 ans.
Voilà. Ben écoute, c'est très bien résumé. Espérons que à l'Assemblée nationale, ils t'entendront. Bon, tu es pas le seul évidemment à demander ça depuis un bon moment déjà, mais en effet, 20 ans plus tard, ce serait disons la moindre des choses. Écoute, Joseph, je vais à la suggestion de Sébastien Laperrière, mon collègue réalisateur et metteur en onde, on va se quitter avec cette chanson de Charles Aznavour que j'évoquais tout à l'heure. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la bohème, parce que ça s'applique à toutes sortes de choses dont on s'est parlé aujourd'hui. Alors je t'embrasse, cher ami, et on se retrouve jeudi prochain.
Avec plaisir.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème.
Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Vous connaissez bien sûr la députée du Parti québécois, Véronique Yvon. Voici ce qu'elle a écrit hier sur son compte Twitter. Les parents adoptants ont maintenant droit à la même durée de congé parental que les parents biologiques. Une grande avancée qui fait toute une différence pour les familles adoptantes et qui résulte d'une mobilisation inspirante et d'un beau travail de collaboration parlementaire. On va parler de tout ça avec Anne-Marie Morel. Elle est présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Madame Morel, bonjour.
Bon matin, Madame Durocher.
Comment allez-vous?
Ben bien, on peut pas dire qu'on va pas bien. C'est un très grand jour qu'on attendait depuis presque de 15 ans.
Alors, 15 ans?
On est très heureux. Oui, dès le balbutiement du régime québécois d'assurance parentale, la Fédération faisait déjà des représentations pour obtenir un congé qui était équitable, qui était équivalent pour des besoins différents, mais à l'époque, il n'avait malheureusement pas été écouté.
Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Quand on accouche au Québec, la mère et le père et ou ont droit à un congé parental avec une rémunération parce que on dit ben écoutez, c'est tellement physiquement exigeant prendre soin d'un petit bébé et la logique à l'époque, c'était de dire ben voyons, un parent adoptant, pourquoi ils ont besoin d'avoir un congé? C'était ça que vous faisiez répondre à l'époque, non, Madame Morel?
Il y avait eu de l'ouverture, là, je vous dirais, du gouvernement de l'époque, mais on ne voyait pas à quel point ça pouvait être aussi exigeant, et surtout du point de vue de l'enfant. Donc, imaginez cet enfant qui arrive dans une nouvelle famille. Parfois, c'est un bébé naissant, parfois, c'est un enfant beaucoup plus vieux, et c'est un enfant qui a vécu un abandon que les adultes n'ont pas gardé, des fois de façon volontaire, des fois de façon moins volontaire, donc des enfants qui ont subi des traumatismes aussi, et c'est ça qu'on doit réparer avec le temps.
Oui, parce que il faut s'imaginer donc un enfant qui arrive dans une famille, tu peux pas lui dire alors que justement il a été l'objet d'un abandon, tu peux pas lui dire bon ben on va te confier à quelqu'un d'autre, papa maman s'en vont travailler. Ben non, et on a cet enfant-là a besoin d'une présence et là à la rigueur je dirais même que le pour un enfant adopté, la présence de ses parents auprès de lui à temps plein ou d'un des deux parents est encore plus importante même que pour un enfant, parce que à la rigueur, on vient d'accoucher, on peut aussi avoir de l'aide de quelqu'un d'autre, mais pour un enfant qui arrive dans une nouvelle famille, le lien qui est établi est extrêmement important.
Oui, c'est vraiment le premier soin, hein? Donc d'établir, rétablir la confiance envers les adultes. Et pour l'enfant, on n'est pas un parent, là, on n'est pas la maman lorsqu'elle est enceinte. L'enfant reconnaît déjà à la naissance la voix, l'odeur, certaines choses qu'il a entendues. Alors, on n'a pas ça avec l'enfant adopté qui arrive et qui a des fois transité par plusieurs autres familles avec d'autres adultes donneurs de soins bien avant nous Pour l'enfant, on est une autre famille d'accueil, un autre orphelinat, un autre milieu, et il attend le prochain. Donc, dans sa tête, à lui, ce n'est pas un milieu permanent.
C'est transitoire. Vraiment...
Exact. C'est vraiment ça qu'on doit travailler, donc redonner la confiance à l'enfant et lui faire comprendre que c'est un milieu qui ne le laissera pas tomber et qui lui appartient pour toujours. Et quand l'enfant arrive dans la famille, le mien est arrivé en septembre à près de 3 ans, donc il en a vécu des gens qui sont passés dans sa vie, donc les études nous montrent que ça pourrait prendre au moins l'équivalent de son âge avant de vraiment intérioriser le fait qu'il appartient à notre famille puis qu'on le laissera pas ailleurs par la suite. Donc, c'est très, très long et c'est la présence du parent et le fait de lui donner des soins qui permet de fabriquer cette confiance à nouveau en les adultes.
C'est quoi le plus gros préjugé auquel vous avez vu à faire face? Vous dites que c'est un combat que vous avez mené pendant 15 ans. Le plus gros préjugé qui fait en sorte qu'il y avait cette iniquité entre les parents biologiques et les parents adoptants face au régime d'assurance parentale?
Mais en fait, vous allez peut-être vous surprendre, c'est souvent les papas biologiques qui ont été contre la mesure.
Hein?
La grande majorité des mères le comprenaient instinctivement. Premièrement, qu'il faut donner des soins à un enfant qui a été des fois blessé, battu, mal nourri. Donc, c'était assez instinctif. Donc, les quelques fois où on a eu de l'opposition, et au niveau juridique, c'était ça également, c'était souvent des papas adoptants biologiques, qui disaient qu'eux aussi n'ont pas accouché, donc le parent adoptant ne mérite pas plus qu'eux. Ils se comparaient à nous.
C'est intéressant.
Exactement. Ouais. Donc c'était ça un petit peu, mais je vous dirais qu'au niveau politique, la première crainte, donc au départ c'était Madame Michèle Courchesne qui était là, et la crainte c'était dans la naissance d'un RQAP que le déficit soit trop important. Donc ils avaient répondu aux professionnels, à la fédération. Écoutez, laissez-nous un an pour évaluer le programme, puis par la suite on ravisera. Et finalement on s'est pas ravisé. Il a fallu plusieurs gouvernements et plusieurs batailles, de nombreuses pétitions où les citoyens, les Québécois, ont été quand même extrêmement nombreux là, à appuyer les adoptants, mais il a fallu se battre très longtemps pour enfin obtenir l'ouverture qu'on a aujourd'hui et l'équité qu'on a depuis 3 jours maintenant.
Oui. Écoutez, est-ce que vous avez ouvert une bouteille de champagne ou, je sais pas, une bouteille de 7-Up, quelque chose pour fêter ça?
Mais pas encore, parce que là, avec le confinement, on peut pas se trop fêter tout seul, là. C'est un peu décevant. Mais un jour, on le fera, certainement, parce que, pour vrai, c'est une mesure qui change la vie des parents, qui réduit le stress énormément. Et la pandémie, pour les parents qui sont à l'international, du moins, la pandémie a rallongé beaucoup le temps que les enfants passent en orphelinat. Là, les parents commencent à peine à aller chercher leurs enfants qui ont passé plusieurs mois de plus en orphelinat, donc qui sont abîmés et qui ont besoin du temps à la maison. Donc, pour eux, c'est vraiment un cadeau du ciel qui enlève beaucoup de casse-tête et qui leur change la vie.
Oui. Quand on compare, si je prends un papier puis j'écris les 4 mots l'un à côté de l'autre, là, parent biologique, parent adoptant, ben, y a quand même le mot parent qui est en commun, là. Pourquoi on fait une différence? Ce qui est important, c'est pas ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche. Parent, c'est la même chose?
Oui, puis moi, je vous ferais la même chose avec les enfants. Enfants biologiques, enfants adoptés, pourquoi on avait des enfants qui passaient 4 mois de moins avec leurs parents? Puis des fois, c'est des petits bébés naissants là, que les parents étaient contraints de remettre à la garderie à 7-8 mois. Donc, c'était déjà une injustice très, très forte du point de vue de l'enfant. Et je pense que c'est ça qui a joué dans la balance quand on a réussi à faire comprendre que oui, le programme est pour le travailleur, mais sur qui il a un impact important? Sur le parent et sur l'enfant. Et là, on avait des enfants qui étaient discriminés et ça, c'était pas acceptable. Donc, c'est ce qui nous a donné cette détermination de se battre très fort. Et on a eu la chance de rencontrer sur notre chemin des Madame Yvon, entre autres, qui quand même déjà en 2014 nous appuyait là, dans cette démarche-là. Lorsqu'on faisait des sorties, elle était présente, donc j'en profite pour la remercier. Et par la suite, en travaillant avec le ministre Boulay, on est arrivé à une entente et puis ça aussi, c'est une ouverture là, dont on avait grandement besoin. Donc, on a été très, très heureux de la finalité.
Je veux pas, évidemment, faire rentrer dans l'intimité de qui que ce soit, mais est-ce que vous pensez que le fait que Mme Yvon elle-même soit avec son conjoint des parents adoptants, que ça a fait une différence de sensibilisation?
Mais à la base, je pense qu'on n'a pas eu besoin de lui expliquer longtemps qu'est-ce que c'est la normalité adoptive. Parce que c'est normal, on n'en veut pas un député ou un Québécois qu'on rencontre et qui nous dit « ben il me semble que ça doit être moins difficile, vous accouchez pas ». Ça, quand on ne sait pas, c'est pas quelque chose qui vient nous chercher. On explique les défis qui sont différents, les défis d'attachement, les traumatismes antérieurs, les souvenirs sensoriels de nos enfants. Une fois qu'on explique, les gens comprennent. Madame Yvon, c'est ce qui a été un beau cadeau pour nous. On n'a pas eu besoin d'expliquer parce qu'elle l'a vécu et elle s'est aussi informée dans ce dossier-là. Et elle n'est pas la seule. Au fil des ans, il y a eu des députés de tous les partis qui avaient été soit eux-mêmes adoptés ou qui avaient des adoptés dans leur famille, parce qu'on sait que ça touche beaucoup de gens, l'adoption autour de nous. Puis on a eu des gens de tous les partis, mais lorsque le ministre, par exemple, n'est pas d'accord, bien, on rencontre des difficultés plus imposantes. Donc, voilà.
Oui, c'est sûr que ça, disons que ça évite le 2-3 heures que vous devez passer pour expliquer une situation si la personne l'a vécu. C'est sûr qu'il y a à la base une sensibilisation, ça tombe sous le sens. Vous nous avez parlé tout à l'heure de deux choses, Madame Morel. Vous avez parlé du défi d'attachement et des souvenirs sensoriels. C'est quoi les souvenirs sensoriels?
Ce que je veux dire, c'est dans nos sens. Des fois, on se dit, c'est un bébé, il y a un an, il se rappellera pas de ce qu'il a vécu, mais il se rappelle d'avoir pleuré, puis de pas avoir été entendu, d'avoir eu froid, d'avoir eu peur, d'avoir entendu des pleurs pendant toute la nuit. On a des enfants adoptés qui peuvent pas dormir du tout sans lumière parce que leur orphelinat a toujours été éclairé. Donc, pour eux, la noirceur, c'est la terreur et ça perdure longtemps. Donc, même si on pense qu'un petit bébé, un petit enfant, un tout petit se rappellera pas qu'il a été abandonné, qu'il a voyagé d'une famille à l'autre, c'est étonnant comment il se rappelle. Et pour l'adoptant, mais ça, c'est une boîte noire, hein, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, un peu comme un accident d'avion. Donc, on peut le découvrir, on va devoir être toujours à l'affût puis attentif aux réactions de notre enfant dans des nouvelles situations parce que ça se peut que ça lui rappelle quelque chose, une odeur qui était peut-être un moment joyeux, peut-être pas du tout un moment joyeux, un bruit, une chanson, etc. Donc, tout son vécu avant nous peut le ramener dans des moments où il va être effrayé ou traumatisé ou autre. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est dans nos sens, le souvenir de notre corps, de nos sens, de ce qu'on a vécu.
Je comprends. Mais c'était intéressant, c'était important pour moi de vous poser la question parce que je ne suis pas une maman adoptante, donc je trouvais ça important de vous poser la question pour bien le comprendre. Madame Morel, une question délicate. Je suis sûre que vous avez entendu cet argument-là à un moment donné pendant les 15 ans qu'a duré votre lutte pour la reconnaissance des parents adoptants aux yeux du régime québécois d'assurance parentale. C'est l'argument économique de dire, bon, nous, on a un enfant de façon biologique. Vous avez dépensé de l'argent, vous êtes allé dans un autre pays pour avoir un enfant. Si vous êtes capable d'avoir les moyens de ça, ben pourquoi nous, pour la société, on paierait en plus pour vous payer un congé parental? C'est pas moi qui dis ça, mais je suis sûre que cet argument-là, vous l'avez entendu, là.
Bien, puis rarement, puis juste à la base, par contre, je tiens à dire que ce n'est pas que pour les parents qui vont à l'international, mais donc c'est aussi pour les parents qui adoptent au Québec, là, cette équité pour laquelle on se battait, et c'est différent dans ces cas-là. Donc, oui, c'est sûr que certains peuvent le prétendre. En même temps, les gens qui choisissent de faire un enfant, on paye pour eux, puis les enfants, on paye l'accouchement, puis on paye d'autres choses, puis on le choisit comme société parce que ces enfants-là vont nous soutenir plus tard. Donc, pour nous, en fait, il n'y avait pas nécessairement de différence. Puis c'est sûr que, je vais vous dire très honnêtement, c'est extrêmement rare les parents qui vont adopter à l'international et qui ne vont pas s'endetter pour le faire.
Oui, hein?
Donc, déjà, le support financier est très important. Puis les gens qui font le choix pour l'international, ça, par contre, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. On a l'impression que c'est parce qu'on veut aller chercher un enfant rose en bonne santé, etc. C'est pas du tout ça. Il faut bien connaître le processus ou le choix de l'adoption du Québec aussi pour comprendre que certains parents qui préfèrent une autre modalité, parce qu'au Québec, lorsqu'on nous confie un enfant, il y a deux façons de le faire. Par l'adoption régulière, qui va prendre plusieurs années, 7 à 10 ans, avant d'avoir un enfant qui est proposé. Donc, notre projet de famille, il faut le voir à très, très long terme. Et l'autre, c'est par l'adoption par la famille d'accueil banque mixte. Et quand on passe par ce processus, la plupart du temps, l'enfant va rester chez nous, mais l'enfant peut retourner à sa famille biologique. Et le processus de la famille d'accueil banque mixte, sa finalité, c'est pas l'adoption, c'est d'essayer que la famille d'origine se réhabilite, voilà, et puisse reprendre leur enfant. Donc, il faut quand même des parents qui sont prêts à dire, moi, je vais prendre un enfant peut-être pendant 6 mois, 1 an, peut-être qu'il va me quitter et que je vais recommencer ma famille à zéro. C'est un autre projet et c'est un projet qui est fantastique puis qui fonctionne, mais il faut être capable de le vivre comme ça. Donc, le choix à l'international peut être basé sur plein de raisons. Des fois, même parce que les parents eux-mêmes ont une origine qui n'était pas québécoise au départ, puis qui veulent avoir des enfants aussi de leur origine. Donc, ça dépend vraiment de chaque famille.
Ben écoutez, c'est la première fois qu'on se parle, Madame Morel. Je trouve que vous êtes une excellente vulgarisatrice, une excellente éducatrice en question d'adoption. Vous nous expliquez les choses vraiment avec beaucoup de clarté, beaucoup de conviction, beaucoup de passion. Donc, 1er décembre 2020, vraiment une journée à marquer d'une belle croix blanche, parce que ça fait toute une différence. À partir de ce 1er décembre, les parents adoptants ont exactement les mêmes droits en regard de l'assurance parentale que les parents biologiques. Vraiment, ben écoutez, on a hâte que vous puissiez justement fêter ça au champagne ou au mousseux ou...
On y compte bien. Merci beaucoup, Madame Durocher.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Annie-Marie, oui, c'est ça, Morel, présidente de la Fédération des parents adoptants du Québec. Donc, depuis le 1er décembre, premier jour d'équité, parce que c'est vraiment ça dont on parle, hein. L'équité, c'est que tout le monde est traité de façon équitable. Donc, on ne fait plus, au regard de la loi, de distinction entre des parents qui sont adoptants ou des parents qui sont des parents biologiques. Tout le monde est traité sur le même pied. Et je suis parfaitement d'accord avec Véronique Yvon qui dit que c'est vraiment un grand jour. C'est important. Et il faut le souligner aussi, hein, c'est pas juste Véronique Yvon. Évidemment, ça a été un travail parlementaire avec d'autres députés de d'autres formations politiques. Mais quand les politiciens regardent au-delà des lignes politiques et décident de se battre pour un projet commun, on l'a vu avec Mourir dans la dignité, on le voit pour les cas d'agression sexuelle aussi, ben, ça produit ce qu'il y a de plus beau dans le parlementarisme. En tout cas, dans ce cas-ci, c'est un très bel exemple.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
Alors, on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. La députée de Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, la députée libérale, participait à un comité sur les langues officielles et en utilisant ses doigts pour marquer des faux guillemets, des guillemets imaginaires, elle a remis en question le supposé déclin du français à Montréal et au Québec, avec toutes les conséquences que l'on sait. Dans les jours qui ont suivi, l'ancien sénateur et ancien journaliste, éditorialiste à la presse, André Pratt, a écrit une chronique dans le Journal de Montréal, en fait un texte, une lettre ouverte, dans lequel il disait, ben écoutez, elle a parfaitement raison, Emmanuela Lambropoulos, elle a le droit de se questionner là-dessus, parce que on a le droit de se questionner, en effet, sur le déclin du français au Québec. Et c'est rendu que c'est une religion statistique, on n'a pas le droit de remettre en question ces chiffres-là. Ben, il y a deux personnes qui ont décidé de répondre à André Pratt, c'est publié dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et ces deux personnes-là, c'est Patrick Sabourin et Alain Bélanger de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, et Alain Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Bélanger.
Bonjour, Madame Durocher.
Alors, j'étais obligée de faire une longue introduction pour vous présenter, parce que votre texte, c'est une réponse à André Pratt, qui était une réponse à tout un tollé qui a été soulevé. Alors, est-ce qu'on peut régler la question une fois pour toutes, basée sur des chiffres? Y a-t-il, oui ou non, déclin du français au Québec?
Ben oui, en termes relatifs, le français diminue rapidement, démographiquement parlant. Les choses se font lentement, là. C'est un peu comme les changements climatiques, ça se fait pas en quelques années, ça se passe sur plusieurs années, mais les tendances sont lourdes et présentes depuis longtemps, vers un déclin du français, aux dépens de l'anglais. Finalement, ce que dit M. Pratt, c'est que les deux langues diminuent, parce que les troisièmes langues ou les langues autres augmentent. C'est vrai que c'est en partie pour ça que la proportion francophones ou d'anglophones diminuent dans le temps, sauf que le français diminue beaucoup plus rapidement en termes relatifs que l'anglais. Et ça, c'est dû au transfert linguistique des allophones vers l'anglais qui sont prépondérants.
Donc, pour résumer, le français et l'anglais diminuent, mais le français diminue plus que l'anglais. Et vous citez des chiffres dans votre texte qui donnent un peu froid dans le dos. Parce que vous nous faites des projections sur ce qui pourrait se passer en 2056, donc dans 36 ans. Mon Dieu, dans 36 ans, je sais même pas si je vais être encore sur Terre. Je pense que je vais avoir à peu près 92 ans. J'aurai plus de dents, puis je vais manger du manger mou. Mais on sera plus très, très nombreux à parler français. Vous nous dites que la proportion de gens qui parleront le français à la maison, selon vos projections, vont être réduites à 76 % en 2056. Ça donne froid dans le dos quand même, M. Bélanger.
Oui, ben c'est inscrit dans la dynamique démographique de la population québécoise. Hein. Si on regarde le nombre de locuteurs ou la proportion de locuteurs selon l'âge, on observe que la proportion de d'anglophones est plus élevée plus on est jeune. Puis c'est les jeunes qui vont se reproduire et avoir des enfants qui vont évidemment avoir la langue maternelle, vont avoir comme langue maternelle la langue utilisée à la maison par leurs parents. Et c'est donc par ce phénomène-là de transfert linguistique intergénérationnel que se produit l'anglicisation plus rapide au Québec.
Oui, puis il y a la question de la ville de Laval aussi. Puis c'est drôle que vous parliez de la ville de Laval dans votre texte parce que régulièrement, je vais à Laval pour faire des courses et je suis absolument découragée de voir à quel point je suis reçue en anglais dans les commerces. Mais ça, c'est plus anecdotique. Vous donnez des chiffres sur la proportion de locuteurs de français à Laval. Et encore une fois, là, les chiffres sont inquiétants.
Ben évidemment, le phénomène est beaucoup plus important au centre-ville de Montréal. Puis souvent, les arguments de ceux qui avancent que le français n'est pas vraiment à risque, ils disent que Montréal, c'est une ville cosmopolitaine, internationale, puis que c'est normal qu'il y ait des usagers de l'anglais ou des gens qui servent en anglais. Au centre-ville de Montréal, les touristes, par exemple. Mais en fait, l'anglicisation se limite pas seulement au centre-ville de Montréal ou à l'île de Montréal, mais se poursuit aussi ou s'étend dans la région métropolitaine au complet. Et en fait, l'exemple de Montréal, de Laval, est un excellent exemple qui montre que le français décline très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans l'ensemble du Québec, évidemment. Les changements démographiques amenés par l'immigration, finalement, par l'immigration mm-hmm. de personnes qui utilisent une langue autre que le français ou l'anglais, qui doivent choisir à un moment donné de parler une des deux langues officielles du Canada pour travailler, etc., ça fait beaucoup moins dans les régions comme la Côte-Nord ou l'Abitibi, c'est certain. Mais ce n'est plus seulement sur l'île de Montréal que se produit ce phénomène-là, mais ça se produit aussi dans l'ensemble de la région métropolitaine, donc ça tend à s'étendre au niveau géographique aussi.
J'aimerais vous poser une question plus personnelle, M. Bélanger. Oui? Ça a été quoi votre réaction, pour de vrai, là, dites-moi la vérité, quand vous avez ouvert votre journal de Montréal, Journal de Québec, puis que vous avez vu la lettre d'André Pratt, ça a été quoi votre réaction?
Bien, je suis... pas étonné de M. Pratt, dans un sens, il a toute une carrière d'appui au Parti libéral. C'est sûrement très politique, beaucoup plus qu'autre chose. Mais je suis quand même surpris de voir que on puisse mettre en question des évidences comme celle-là. Hmm. Je pense que hier, ou le 1er décembre, donc ça fait quoi, deux jours. Il a aussi reproduit sa lettre en anglais dans The Gazette. Mais il y a une bonne partie, c'est la même chose que la lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal. Mais on a rajouté, un peu comme font les politiciens fédéraux aussi.
Êtes-vous sérieux? J'étais pas au courant. Donc, il l'a republié en anglais en rajoutant une couche de crémage.
Oui, il a ajouté d'autres statistiques encore biaisées, mais qui plaisent plus aux anglophones qu'aux francophones, qui sont beaucoup plus choquantes, en fait, même. Dans le sens, dans la lettre en anglais, il parle du fait que les ayants droit, donc ceux qui ont le droit d'aller à l'école française, là, les,
la clause Canada, oui,
ont diminué en 1986 et 2015. Ben, c'est à peu près certain qu'ils vont diminuer si la fécondité des anglophones est inférieure au seuil de remplacement, là, c'est-à-dire 2 enfants par femme. S'ils n'ont pas 2 enfants par femme, ça va diminuer. Ça va diminuer aussi parce que les Anglais, les anglophones ont tendance à quitter la province de Québec
voilà.
plus souvent que les francophones. Donc, ça ne peut pratiquement que diminuer, sans compter que la croissance démographique est, elle aussi, moins grande. Donc, c'est pas vraiment la bonne statistique. S'il veut parler du problème de l'éducation ou de la répartition linguistique au niveau de l'éducation, il devrait peut-être plus regarder au niveau du cégep. Ce qu'on observe au cours des 10 dernières années, c'est une augmentation des effectifs dans les cégeps anglophones de 25%.
Ouch. Ça,
bon, ben la population augmente, il y a plus de gens qui vont faire des études plus longues que dans le passé. On s'attend à ce que ça soit possible, même s'il n'y a pas de transfert linguistique. Ce qu'il faut comparer, c'est cette proportion-là d'augmentation dans les effectifs au cégep anglais de 25% à celle des effectifs dans les cégeps français, qui est beaucoup moindre, à 17% au cours de la dernière décennie. Donc, il y a plein d'indicateurs pour montrer qu'il y a un transfert vers l'anglais plus grand que ça devrait l'être pour maintenir l'équilibre linguistique au Québec. Les francophones puis les anglophones ont à peu près la même croissance naturelle, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès. Donc, il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la fécondité ou de la mortalité des deux groupes linguistiques. Ce qui détermine l'évolution future de la proportion de francophones au Québec, à Montréal ou à Laval ou dans l'ensemble du Québec, c'est les transferts linguistiques. Là aussi, dans sa lettre en anglais, il n'en avait pas parlé en français, là, il cite que 75% des immigrants récents choisissent le français quand ils font un transfert linguistique. Ben, d'une part, 75%, c'est pas suffisant.
Ben non. Parce qu'il y a le 25% qui est problématique.
Ben oui.
Puis c'est pas suffisant pour remplacer justement les pertes démographiques qu'on a en faveur du français, là.
Ben, les francophones de langue maternelle représentent 90% des usagers de langue officielle. On doit comme retirer du dénominateur les allophones. Là. C'est vraiment la proportion du français par rapport à l'anglais qui est importante. D'une génération à l'autre, les allophones vont adopter le français ou l'anglais. Ce qui est important, c'est le choix qu'ils vont faire.
Donc,
Ça se fait lentement. C'est évident qu'un couple d'immigrants s'installe à Montréal, qui ont une langue autre que le français ou l'anglais, vont continuer à parler l'espagnol, l'arabe ou le chinois chez eux. C'est normal. On ne veut pas penser changer la langue d'usage à la maison de la population. Par contre, s'ils adoptent l'anglais ou le français, leurs enfants vont aussi parler l'anglais ou le français. Puis, donc, il y a des transferts linguistiques qui vont se réaliser. Donc, c'est absolument important de regarder cette variable-là aussi.
C'est ça, c'est que c'est pas la première génération qui importe ou qui a un tel poids démographique sur la langue d'usage. C'est la deuxième, la troisième et la quatrième génération. C'est ces choix-là qui sont faits à ce moment-là, qui sont absolument déterminants. Mais écoutez, je suis encore estomaquée par ce que vous me dites à propos de la lettre d'André Pratt en anglais. C'est sûr qu'après l'entrevue, je vais aller voir ça pour voir en effet les différences qu'il y a entre les deux lettres. Écoutez, je reviens à la lettre que vous avez publiée dans le Journal de Montréal, de Québec. Ça se termine avec la phrase suivante, le déclin lui-même n'est pas une opinion. Il s'agit d'une réalité démographique. Et c'est un petit peu ça qui est, en fait, au cœur de ce débat. Parce que, si je reviens à la déclaration d'Emmanuela Lambropoulos lors du comité sur les langues officielles, Elle en faisait une question d'opinion. Elle en faisait une question de « Ah ben, ça dépend du point de vue où vous vous placez. » Alors que André Pratt allait un peu dans le même sens en disant « Ben, ça se discute. » Et en fait, vous venez mettre un point à tout ça en disant « Ben, c'est pas une question de point de vue, c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de où on se situe sur l'échiquier. » Il y a une réalité, et la réalité est que c'est un déclin. Parce que André Pratt, il disait, c'est pas un déclin, c'est une fragilité. Et il joue un peu sur les mots, non?
Ouais, ce qu'il disait, c'est que le français diminuait, mais l'anglais aussi. Donc, c'est parce que les allophones augmentent. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. C'est juste parce que les allophones augmentent que les français diminuent en proportion. Parce qu'il n'y a pas de diminution en nombre absolu, ni de français, ni de l'anglais. Mais la croissance de la population anglophone est plus rapide que celle de la population francophone à cause des transferts linguistiques des allophones qui sont grands proportionnellement vers l'anglais que vers le français.
Je pense que la démonstration est assez claire. Monsieur Bélanger. Donc, je rappelle que vous êtes professeur de démographie à l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique. Et, écoutez, c'est drôlement intéressant. Donc, pour que les gens, justement, puissent prendre pleinement connaissance de tout ça, j'invite tout le monde, bien sûr, à retourner sur le site de Cube. Vous allez retrouver l'entrevue que j'ai faite ici même avec André Pratt. Et entrevue qu'il a quand même commencé en disant « Je ne suis pas démographe, mais trois petits points de suspension. » Et là, il nous a expliqué son point de vue. Alors, je trouvais ça équitable de pouvoir faire entendre les deux parties dans ce dossier-là. Merci beaucoup, Monsieur Bélanger.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci, à la prochaine. Alain Bélanger, donc professeur de démographie à l'INRS. Ben, c'est avec lui et cette passionnante discussion que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on va être évidemment là de retour demain. À partir de midi, l'émission est disponible en balado. Sinon, vous l'écoutez en direct à 17h30 sur Cube Radio. Et en tout temps, ben, vous le savez, vous allez sur le site de Cube Radio et vous pouvez retrouver tous les balados de nos différentes émissions. Merci à Sébastien Laperrière à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche, et je vous dis au revoir et à demain.
Cube Radio.